Samuel Rousseau, vous êtes donc le nouvel hôte du Grenier à sel à Avignon. Vous occupez trois salles. Il y a une salle où on peut découvrir, non pas une rétrospective, attention, puisque vous êtes en face de moi, vous êtes toujours vivant, mais on peut découvrir un résumé de votre œuvre avec des pièces que vous avez choisies. Comment les avez-vous choisies, ces pièces, par rapport au fait que certaines d'entre elles n'ont jamais été montrées ?
C'est un mix, en fait, entre des goûts et des envies. Une exposition, ça se fait en collaboration avec un curateur, donc quelqu'un qui va vous choisir et puis qui va vous permettre d'exposer. Donc lui, bah, il a ses idées sur les œuvres, il a des envies, vous en avez des aussi, parce que je viens de faire des nouvelles pièces, puis moi, quand je viens de réaliser une œuvre, je suis un peu comme un gamin qui voudrait partager son goûter avec ses potes, quoi. Donc j'ai envie de les montrer, forcément. Donc après, bah, on tend une direction, et puis on va piocher un peu. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme rétrospectif, parce que je peux montrer des pièces qui ont 20 ans, c'est pas le problème. Au contraire, je dirais même, parce que bah, on peut les confronter au temps, en fait, et à la mode. Et donc après, bah, moi j'ai 25 ans de carrière, j'ai un panel de pièces, et puis en collaboration avec le curateur, on choisit, et après on met en œuvre dans l'espace.
Là, on a vraiment un circuit obligatoire, il faut aller dans la première salle, et ensuite dans la seconde, puisqu'effectivement elles sont très différentes. Il y a des boîtes de conserve, il y a des jerrycans, il y a des palettes, il y a des pneus, qui sont des objets de la vie courante, des objets même au rebut. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la matière, dans les objets ignobles, comme vous les appelez ?
Alors, ce qui m'intéresse dans les objets dits ignobles, mais quand je dis ignoble, c'est au sens non noble du terme. Parce qu'on a tendance à mettre les artistes dans des prisons quelque part, et puis on va se dire, tiens, ils vont utiliser du bronze ou de la peinture à l'huile, ou enfin, des matériaux classiques de l'expression artistique. Alors que moi, si j'utilise en fait des objets de rebut, ou des objets en fait qui sont bons à être mis à la casse, à la poubelle, c'est parce qu'en fait, tout à chacun a pu les avoir entre ses mains. Tout le monde a eu dans ses mains une boîte de conserve, a vu une palette, a changé un pneu, a eu un jerrycan dans ses mains. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que vous êtes dans votre quotidien, dans votre vie, et puis vous allez rentrer en confrontation avec une de mes œuvres qui va utiliser une boîte de conserve. Et moi, mon idée, c'est de changer en fait la vision de votre monde. Et l'idée, c'est que la prochaine fois que vous allez ouvrir une boîte de conserve, ben peut-être que vous allez à votre tour vous mettre à imaginer des choses qui vous appartiennent.
Le mouvement, il est omniprésent dans vos créations, et en même temps, il y a du relief, c'est-à-dire que en fait, vous associez trois dimensions avec une sculpture, ou simplement du verre découpé, par exemple, et vous faites une projection en deux dimensions.
Bah, en fait, je faisais de la peinture il y a super longtemps. Je viens du mouvement graffiti, de la peinture qu'on dit figuration libre. Et le problème, ça m'a vite rendu prisonnier, parce qu'à l'époque, c'était du 4 tiers. C'est comme un peu si un peintre, vous lui disiez, voilà, bah, vous avez un châssis qui est donné, et puis bah, toute votre vie, vous allez travailler sur le même châssis, les mêmes dimensions. Et ce qui est important pour moi, c'est ma liberté. Et donc, petit à petit, bah, je me suis mis à mettre des scotchs sur les télés, à mettre des scotchs sur les objectifs des vidéoprojecteurs pour occulter certains bouts de l'image. Et petit à petit, j'ai utilisé la vidéo un petit peu comme une seconde peau. C'est-à-dire, bah, je vais prendre un objet du quotidien, donc comme on disait, un bout de pneu, un bout de verre, un bout de jerrycan. Je vais dessus mettre une seconde peau avec ma poésie, mes réflexions, ma vision du monde. Ça me permet de rendre un art vivant, joyeux, ludique. Je fais un travail qui est, je dis, à strate de lisibilité. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'arrêter à des choses, bah, c'est rigolo, ça bouge, il y a la couleur. Et puis, on a tous les outils qu'il faut, tout est donné à mon sens, pour avoir une lecture, si on le souhaite, plus profonde, plus élaborée, plus personnelle aussi, parce que j'entends à rendre la liberté que j'ai moi-même quand je crée.
Vous proposez un regard sur le monde et même un regard politique, hein. Par exemple cette tête de mort qui a dans les mâchoires votre propre carte de crédit. Au départ, on arrive, on se dit, tiens, il y a des boules à facettes, et puis c'est pas du tout des boules à facettes, qui, en fait, c'est des sphères magnifiques, c'est terrible en plus, parce que c'est magnifique, et que vous avez réalisé avec du fil de fer barbelé. Déjà, l'entrée, enfin, avec ses points fermés, mais c'est des points de femme, des points féminins, c'est toujours très fort, mais c'est jamais agressif.
Ça m'intéresse pas, en fait. L'agressivité, le 20e siècle, il nous a montré un truc, c'est que c'est pas avec les meilleures idées du monde et une kalachnikov qu'on oblige les gens à être heureux. La première pièce avec laquelle vous allez rentrer dans l'exposition, elle s'appelle Révolution virale. En fait, chaque point symbolise un combat à mener pour une juste place des femmes dans notre société. Moi, je suis pas un moralisateur. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on a des super belles idées. Il y a des philosophies ou des politiques qui sont dans les livres très belles, mais l'application, ben, elle convient pas à tout le monde. Et moi, j'estime qu'on est tous différents. Et ce qui fait la richesse de l'humanité, bah, c'est justement ça, c'est nos différences. C'est qu'on soit et petit, et grand, et gros, et jaune, et bleu, et vert, et orange, et qu'on pense ci et pense ça. Tant qu'on se respecte, c'est formidable. Moi, ce que je constate, j'ai vécu aux États-Unis, qui est une société interculturelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures qui cohabitent les unes avec les autres. C'est une société qui me fait peur. Moi, je préfère notre société française qui est interculturelle, c'est-à-dire qui va incorporer dans sa culture des éléments différents, de différentes formes de culture. Et pour moi, ça, c'est que de l'enrichissement, c'est que quelque chose qui peut apporter à l'humanité une profondeur, un regard sur les choses. Oui, quand vous parlez de politique, je suis d'accord, je mets de la politique dans mon travail, mais au sens noble du terme, pas au sens du pouvoir, qui est à mon avis pas très intéressant, mercantile, et qui a trop d'emprise sur la vie des gens. Moi, mon bonheur, il m'est propre, votre bonheur, il vous est propre, et puis les gens qui nous écoutent, leur bonheur, il leur est propre. Alors ouais, j'ai une vision du monde un peu acerbe, ouais, j'émets des critiques dans mon travail, mais à chaque fois, c'est des questions ouvertes et j'apporte pas de réponse. J'aime bien utiliser ce terme, je suis un naïf éveillé, en fait. Je regarde le monde d'une façon très naïve, mais avec un certain bagage culturel, et j'ai envie d'insuffler ça dans mon art sans être dans le dogme, c'est-à-dire que on va visiter une exposition, souvent comme on rentre dans une église ou dans une mosquée ou une synagogue, on va être dans un espèce d'état comme ça. Mais ce qui est vraiment génial avec l'art, c'est que c'est une forme de spiritualité sans dogme, c'est complètement ouvert. On ne peut pas avoir tort face à une œuvre d'art. Ne pas comprendre une œuvre, c'est faux. Tout le monde comprend une œuvre et tout le monde, il est artiste. Tout le monde est artiste. Alors quand je dis ça, mon Dieu, dans le monde de l'art, il y a les cheveux qui se dressent et tout ça. Mais moi, j'ai demandé à une amie qui est instite. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà rencontré des enfants qui ne dessinent pas ? Elle m'a dit, de ma 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu d'enfants qui ne dessinent pas. On est tous des artistes, tous. Sauf que moi, j'ai fait le choix que c'est ma vie, que c'est mon travail, que je tends à en vivre. Voilà, ça m'habite complètement. Mais on a tout ça en soi, sauf que moi, j'en ai fait mon métier.
Lorsqu'on est rentré dans la première pièce, j'ai rapidement fait le tour. J'ai un peu devancé vos explications. Et j'ai vu les jerrycans avec ces petites silhouettes qui vont et qui viennent. Je me suis dit, tiens, on dirait Playtime de Jacques Tati. Vous avez cité Tati, vous avez cité Chaplin. Il y a cette œuvre extraordinaire avec ses yeux au fond des boîtes de conserve, on dirait un film de Cronenberg. Ouais. Et puis la grande œuvre, peut-être la plus connue, qui est au fond de la salle, on dirait un vaisseau à la Star Wars. Mm-hmm. Quelle est la place du cinéma dans votre inspiration ?
Du cinéma, je ne sais pas, mais la science-fiction à fond. Pour moi, l'art, ce n'est pas une question de forme. Je veux dire, on peut très bien faire de la décoration en faisant de la peinture. On peut très bien faire un film qui est un film-film avec vraiment une aspiration profonde et philosophique et conceptuelle. Pour moi, le mode d'expression, on me demande souvent pourquoi tu fais de la vidéo. Je leur réponds tout simplement que si j'avais été un homme préhistorique, j'aurais gratté la terre, j'aurais fabriqué des ocres et j'aurais barbouillé avec les matériaux qui m'entourent. La vidéo, elle est tombée sous le sens. Je suis de 71, c'était moi à la maison qui réglais la téloche, mes parents, ça les faisait flipper. Les artistes, je suis la deuxième génération à utiliser la vidéo et la première génération qui a utilisé la vidéo, c'était souvent pour émettre un sens critique face à la télévision. Sauf que nous, on a dépassé ce truc-là, on est dans une génération où on est né avec la télévision. Donc en fait, on n'était pas naïf vis-à-vis d'elle, on savait qu'elle nous racontait plein de conneries. Par contre, elle avait un potentiel, la télévision, parce qu'elle a un tube cathodique, parce qu'elle peut émettre des couleurs et qu'on peut induire le mouvement. Et de ce mouvement, nous, les artistes, on se l'accapare et d'un coup, on en fait autre chose, tout simplement. Donc, ce n'est pas une question de matériaux, c'est une question de profondeur, en fait. Et c'est une question aussi de séduction. Par exemple, je fais de l'art et je ne fais pas du spectacle. Je ne cherche pas à séduire. Je dis souvent que le geste artistique, c'est un geste extrêmement égoïste, parce que quand je fais une œuvre, je pense qu'à moi, je pense qu'à mon petit égo et que ça me plaise à moi. Que ça plaise au reste du monde, je m'en contrefous, excusez-moi, mais ça ne me regarde en rien, je ne suis pas là pour vous plaire. Par contre, une fois que j'ai réalisé l'œuvre, j'ai qu'une envie, c'est de la partager avec le reste du monde, parce que pour moi, c'est aussi un acte de générosité, mais qui est dans un deuxième temps, en fait. Et c'est ça, l'art. Ouais, le cinéma, il est important, mais aussi important que la sculpture, aussi important que la BD, aussi important que la lecture, aussi important que les conférences scientifiques auxquelles j'assiste. Tout est enrichissement, en fait. Une des plus belles choses qu'on puisse dire sur ma démarche, c'est que je suis inclassable. On n'arrive pas à me foutre dans un tiroir, je trouve ça génial. C'est là que ça se passe. C'est l'artiste, c'est lui qui remet en cause le monde. Alors ouais, ok, derrière, ça peut être difficile parce qu'on prend certaines critiques dures, parce qu'on est des êtres sensibles et que c'est pas facile à prendre ça, c'est dur. Mais on a aussi des gens qui sont venus me voir avec les yeux pleins de larmes suite à une de mes expositions et ça, c'est d'une richesse juste extraordinaire, quoi.